BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, bientôt 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business dans l'actualité ce soir. C'est la question qu'on se pose depuis des mois et qu'on se pose encore. Faut-il croire ou non en Joe Biden? Il n'a pas été mauvais sur le fond lors de sa conférence de presse d'hier soir. Sauf qu'il y a eu deux petits lapsus qui font tache. Vous savez, c'est comme la petite tache sur le costume. On ne voit que ça. On va aller à Washington, bien sûr, dans un instant. Sinon, on a la saison des résultats trimestriels qui a débuté aujourd'hui du côté de Wall Street et déjà une paltanquée de chiffres sur les banques américaines. Étienne Braque va nous raconter tout ça depuis Euronext. On parlera tout ça avec nos experts qui arrivent dans un quart d'heure. Avec eux, on parlera aussi du retard à l'allumage qui se profile sur le budget 2025 chez nous en France. C'est pas un sujet mineur. Et puis, on parlera de cette étude qui est sortie ce matin. Est-ce que c'est vraiment une surprise pour 3 Français sur 4? Emmanuel Macron n'a pas vraiment révolutionné la façon de faire de la politique. C'était sa promesse en 2017. Et même 50% des électeurs considèrent aujourd'hui qu'il n'a pas chamboulé les choses. On parlera de ça aussi. Voilà le programme non exhaustif, évidemment. On est ensemble jusqu'à 19h. Bonne soirée.
Good Evening Business, le journal.
Donc Joe Biden, pour commencer avec la conférence de presse qu'a tenue hier soir le président américain à Washington. Sans note face aux journalistes, il a semblé globalement maîtriser ses dossiers, mais évidemment tout le monde ne retient que 2 petits lapsus qui relancent toutes les spéculations. Benoît Ballet à Washington pour BFM Business.
Malgré 2 lapsus spectaculaires, quand Joe Biden a parlé de son vice-président Trump ou quand il a annoncé un petit peu plus tôt le président Poutine alors qu'il accueillait le chef d'État ukrainien, Joe Biden s'est montré sous un bien meilleur jour que lors du débat raté face à Donald Trump, batailleur, maîtrisant son propos face aux journalistes sans briller pour autant. La plupart de ses réponses étaient argumentées autour du même motif. Je suis la personne la plus qualifiée pour être président, je dois terminer le travail. Et interrogé à plusieurs reprises sur sa santé, sa capacité à assurer un nouveau mandat, Joe Biden a esquissé des sourires, puis évacué les questions. Ses tests neurologiques montrent qu'il va bien et assure-t-il, il sera toujours capable dans 3 ans de gérer les présidents russes et chinois. Sauf qu'après la prestation du président Biden, plusieurs élus démocrates supplémentaires ont demandé à Joe Biden de jeter l'éponge. Et de nombreux parlementaires ont déjà indiqué aux médias américains que la question était loin d'être réglée, voire pire, que les discussions en interne et en coulisses allaient vraiment commencer maintenant que le sommet de l'OTAN est terminé. Joe Biden, lui, s'envolera en début d'après-midi pour le Michigan où il donnera un meeting qui sera une nouvelle fois suivi de très près.
Voilà, Benoît Ballet avec nous à Washington pour BFM Business. Est-ce que le temps va suffire? Est-ce que le temps va suffire désormais? C'est la grande question. On en parlera avec nos experts dans un quart d'heure, bien sûr, sur BFM Business. Tenez, on va rester aux États-Unis parce que ça y est, la saison des résultats trimestriels a commencé à Wall Street. Bonsoir Étienne Braque, Euronext à la Défense. On a déjà des chiffres du côté des banques, du côté de Citi, de JP Morgan, de Wells Fargo. Qu'est-ce que ça raconte globalement, Étienne?
Bah écoutez, c'est très solide, hein, avec des résultats qui sont en forte hausse, que ce soit sur le chiffre d'affaires, mais aussi bien sûr sur le bénéfice net. Alors vous savez, les banques américaines, elles ne sont pas très diversifiées en termes de zones géographiques, mais elles sont très diversifiées en termes d'activité. Et là-dessus, vous avez plusieurs branches qui fonctionnent très bien. Déjà, la partie marché, vous savez, le trading, ça marche très bien chez les 3 banques américaines que sont JP Morgan, Wells Fargo et Citigroup. Ensuite, vous avez l'activité investissement. Vous savez, elle a beaucoup souffert. C'est la branche qui chapeaute les fusions-acquisitions, les introductions en bourse. Selon les introductions en bourse, ça reprend un petit peu depuis le début de l'année. Puis aussi la partie dette avec la hausse des taux. Les entreprises se financent plus cher et ça, c'est bon pour les commissions bancaires. Par contre, les taux de la Fed à 5%, c'est pas très bon pour le consommateur américain qui, lui, tire la langue. Il a de plus en plus recours à la carte de crédit. Chez JP Morgan, qui est quand même une banque où vous avez une clientèle aisée, les encours de carte de crédit ont augmenté plus de 10% au deuxième trimestre. Et vous avez les 3 banques américaines qui ont revu à la hausse leurs provisions en cas d'impayés pour ses clients avec l'utilisation consommation des cartes de crédit, avec notamment un accent qui a été mis pour les provisions concernant l'immobilier commercial également, parce que ça, c'est une autre source d'inquiétude aux États-Unis, notamment en ce qui concerne Wells Fargo. Vous savez, l'immobilier commercial avec des décotes très importantes depuis deux ans, avec la remontée spectaculaire des taux aux États-Unis, mais dans l'ensemble, des banques qui sont confiantes, puisque vous le savez, une baisse des taux est particulièrement attendue dès le mois de septembre de par la Fed.
La saison des résultats qui commence donc du côté de Wall Street, pour nous en France, en Europe, ça sera plutôt la semaine prochaine. Merci beaucoup Étienne, on vous retrouve dans quelques minutes bien sûr pour faire le point sur la séquence d'aujourd'hui à la Bourse de Paris bien sûr. 18h04, on va dire un mot de fiscalité à présent avec cette question: est-ce que le taux d'impôt sur les sociétés n'aurait pas atteint un plancher partout dans le monde? Oui, apparemment, nous dit un rapport de l'OCDE, ça fait des années que ça baisse et là on sent que les choses, ça y est, sont en train de se stabiliser. Caroline Morisseau nous explique tout ça.
Voilà trois ans que le taux moyen d'impôt sur les sociétés est resté stable à l'échelle mondiale, un peu plus de 21%. Principal élément d'explication, selon l'OCDE, l'instauration d'un impôt minimum à 15% dans 140 États a sans doute atténué la pression concurrentielle entre pays. Cette stabilisation marque en tout cas une rupture. Depuis une vingtaine d'années, le taux d'IS moyen, qui atteignait 28% en 2000, a toujours été orienté à la baisse. Tous les pays se livrant une concurrence acharnée, multipliant les mesures fiscales afin d'attirer les sièges sociaux. Certains pays ont été particulièrement offensifs. C'est le cas de l'Irlande, qui affichait un taux d'IS à 12,5%. Mais la France n'a pas échappé à la règle. Emmanuel Macron, lors de son premier quinquennat, en a fait un marqueur fort. Le taux d'IS s'est passé d'un peu plus de 33% à 25%. Une stratégie payante, puisque dans le même temps, le rendement de cet impôt a bondi. Les recettes sont passées de 35 à plus de 55 milliards d'euros.
Caroline Morisseau, en France, toujours, il va y avoir un petit peu de changement du côté des taux des produits d'épargne au 1er août, le taux du livret d'épargne populaire va passer de 5 à 4%. C'est Bercy qui l'a annoncé tout à l'heure. Par contre, celui du livret A va rester à 3%. 3%, pareil pour celui du livret de développement durable et solidaire, le fameux LDDS. Et puis, on vous en parlait déjà hier, ça y est, la phase d'admission à Parcoursup est terminée. Ça veut dire que des centaines de milliers de jeunes vont pouvoir intégrer l'école de leur choix. Beaucoup notamment vont intégrer une école d'ingénieur, oui, mais pas suffisamment par rapport aux besoins du marché du travail aujourd'hui. Adrien Guillaume Padovan.
45 000 étudiants en première année du cycle d'ingénieur à la rentrée, et pourtant c'est insuffisant, note Laurent Champanet, président de la conférence des grandes écoles.
On a un certain nombre d'entreprises qui nous expliquent que leurs grands projets n'avancent pas ou n'avancent pas assez vite par manque de cadre. Un exemple criant, c'est le nucléaire. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est des jeunes qui font des études pour devenir ingénieur, pour faire avancer ses projets.
Les entreprises en demandent beaucoup plus dans les secteurs de l'informatique, de la construction, des transports, qui restent les premiers recruteurs. Les besoins dans ces secteurs sont criants et chiffrés par le président du syndicat Syntec Ingénierie, Michel Caron.
Alors ce sont 80 000 emplois supplémentaires qui sont nécessaires dans le secteur de l'ingénierie pour satisfaire ces transitions écologiques, industrielles et numériques. Il faut qu'on aille leur parler un peu plus. Ça démarre bien sûr dans les écoles d'ingénieurs, mais pas uniquement dans les écoles d'ingénieurs, c'est également vrai à l'université. Et puis il faut remonter un petit peu la chaîne. Il faut donner envie aux jeunes de rentrer dans nos métiers.
L'an dernier, 68% des diplômés en ingénierie avaient déjà obtenu une promesse d'embauche avant même de recevoir leur diplôme.
Adrien Guillaume Padovan avec nous sur BFM Business. Dans l'actualité des entreprises, Unilever lui précise qu'il va supprimer 3200 postes dans toute l'Europe d'ici la fin de l'année prochaine. Il avait annoncé en mars qu'il entendait supprimer 7500 postes dans le monde, mais il n'avait pas vraiment indiqué la répartition. D'après la presse anglo-saxonne, ce sont surtout les équipes basées à Londres ou encore à Rotterdam qui devraient être impactées. Airbus, lui, aurait lancé un plan pour réduire ses coûts dans l'aviation commerciale et pour geler les embauches. C'est ce que nous dit l'agence Reuters. Vous savez que le groupe, on en a déjà parlé, est confronté à de gros problèmes de production. Il avait d'ailleurs annoncé le mois dernier qu'il revoyait à la baisse ses prévisions en termes de livraison d'avions pour cette année. Le groupe, cela dit, ne prévoirait pas de licencier du personnel. Et puis, on voulait vous parler du casque de réalité virtuelle d'Apple, le fameux Vision Pro, qui est donc disponible à l'achat depuis ce matin en France. Les chiffres montrent qu'aux États-Unis, ça avait très bien marché au début, mais que ça s'est quand même rapidement essoufflé. Alexandra Paget.
L'appareil a en premier été lancé à domicile aux États-Unis il y a quelques mois, puis depuis le 28 juin en Chine, au Japon et à Singapour, et à partir d'aujourd'hui en Australie, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne et donc en France. Mais après une phase d'engouement certain, l'intérêt semble s'être vite estompé. La demande pour le Vision Pro a chuté. Apple ne s'attend plus à en vendre que 400 000 unités cette année, contre 600 000 attendues par les analystes. Les motifs de cette désaffection du public pour ce dernier né pourtant très attendu, une fois passé l'effet waouh et la prouesse technique, les usages à long terme n'apparaissent pas de manière évidente. Pour l'heure, ils semblent loin de remplacer le bon vieux Mac. Tendance préoccupante pour Apple, le taux de retour du Vision Pro, affiché à 4000 euros, est plus important que celui des autres produits de la marque. Ce lancement est donc devenu un peu laborieux. La firme a d'ailleurs réduit la voilure sur ses commandes avant même qu'il ne soit lancé hors des États-Unis.
Voilà pour le Vision Pro, disponible à l'achat en France depuis ce matin pour la modique somme de 4000 à 4500 euros. Il y a plusieurs modèles apparemment en fonction de l'espace de stockage, comme on dit. 18h10, on retourne sur les marchés. Rebonsoir Étienne, on vous retrouve. Vous n'avez pas bougé d'un pouce. Euronext. Bonsoir. À la Défense pour BFM Business. On a terminé dans le vert ce soir pour clôturer la semaine, Étienne.
En effet, troisième séance dans le vert après trois séances dans le rouge pour le CAC 40 qui retrouve les 7700 points ce soir à la clôture. 7724 points, vous avez remarqué, depuis le milieu de la semaine, le CAC 40 met de côté un petit peu les problèmes politiques en France. Regarde ce qui se passe du côté des États-Unis et cette baisse de taux qui est désormais intégrée à plus de 90% dès le mois de septembre. À noter également que le secteur du luxe a soutenu la tendance aujourd'hui avec un petit acteur quand même dans le secteur du luxe, Brunello Cucinelli en Italie, mais qui donne un message positif sur la demande suite à cela. Vous avez Hermès, Kering ou encore LVMH qui gagnent plus de 2% au fixing. À noter que dans le secteur aérien, par contre, c'est beaucoup plus compliqué puisqu'après Delta Airlines hier, c'est Lufthansa qui revoit à la baisse ses perspectives pour l'ensemble de l'année avec des prix des billets d'avion qui commencent un petit peu à plafonner. Donc le Travel Revenge a visiblement touché à sa fin ces dernières semaines. Air France perd encore plus d'un pour cent ce soir sur des plus bas historiques. Le CAC 40 donc, il clôture en hausse ce soir de plus d'un pour cent, 1,3% au-delà des 7700 points, 7724 points au fixing, quand Wall Street se remet très bien de sa séance d'hier puisqu'après une baisse de 2% hier, le Nasdaq reprend déjà 0,7% quand l'indice S&P 500 et à nouveau sur des niveaux historiques au-delà des 5600 points.
Merci beaucoup Étienne. Bah, effectivement, on va voir tout ça en image, comme on dit, ce qui se passe du côté de Wall Street à la mi-séance. Le Dow Jones, ouais, effectivement, là, qui grappille 0,7%, on repasse les 40 000. 40 041 points. Et puis l'indice Nasdaq, lui de son côté, qui grappille un petit pourcent, effectivement, 18 480. Tout ça à la mi-séance, bien évidemment. 18h12, on revient dans un instant avec nos experts. On a beaucoup de choses à voir ce soir encore. Joe Biden, qui n'a pas été mauvais sur le fond hier soir, mais enfin bon, il y a deux lapsus qui gâchent un petit peu la fête. La question de savoir aussi si l'OTAN a une stratégie claire vis-à-vis de la Russie. On n'a pas vraiment vu ça du côté de Washington. Et puis on va revenir en France parce que on plaisante, mais il y a un budget à préparer pour la rentrée prochaine et pour l'instant, on semble être légèrement en retard. Tout ça, plus d'autres choses, évidemment. On est ensemble jusqu'à 19h. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 18h15 sur BFM Business, nos experts sont là. Je m'excuse, il y a le masque ce soir, c'est moi qui porte le masque, voilà, pour des raisons. Enfin, vous savez, il a beau faire un temps magnifique ces temps-ci, on peut quand même rappeler des petits coups de froid. C'est pas le Covid, c'est la rhinopharyngite dans tout ce qui est.
Mais c'est bien Guillaume Paul, on confirme.
Mais ouais. Oui, voilà, mais ça disparaît vite. Bonsoir messieurs, merci d'être avec nous. Xavier Patrolin est avec nous. Xavier, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, président d'Albatros Capital. Samuel Botton est avec nous. Bonsoir. Samuel, bonsoir, expert en communication. Alexandre Malafaille, bonsoir.
Bonsoir Guillaume.
Président et fondateur de Sinopia. Alors, pas mal de sujets ce soir encore, évidemment. In Joe Biden, we trust. Ou pas, grande conférence de presse du président américain hier soir. Il a semblé plutôt maîtriser ces sujets, même si tout le monde retient les deux petits lapsus. C'est quand même la petite tache, ça, sur le costume, on voit que ça. Bah, beaucoup ne voient que ça depuis hier, et notamment celle qui concerne Vladimir Poutine, enfin Volodymyr Zelensky. Écoutez.
And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin.
President Putin.
You're going to beat President Putin. President Zelensky. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it.
Alors au moins, là, il se reprend vite.
Ouais.
Motif d'espoir quand même. Non, je ne sais pas comment vous regardez la séquence, Xavier.
C'est ce qui devient compliqué dans la situation dans laquelle il se trouve. C'est que maintenant, les networks américains, les médias américains vont scruter minute après minute chacune de ces interventions sur la forme et plus sur le fond. Donc l'interview d'hier avait pour but d'essayer de désamorcer l'effet négatif la première confrontation entre Trump et Joe Biden. Et on voit que l'équipe de campagne de Trump a énormément de mal, et on le voit dans les commentaires. Au fond, on réduit une heure d'intervention de Joe Biden, voire l'intervention qu'il a fait précédemment avec Zelensky. On le réduit aux fautes, aux problèmes de mémoire. Mm. Et je trouve que c'est très réducteur. Et il est un peu dans cette dynamique négative. Et donc, tu sais ce que je pense. Moi, je pense qu'il n'ira pas au bout. Et c'est pour ça qu'au fond...
On va en parler après du timing, mais...
C'est pour ça qu'au fond, l'équipe de campagne essaye de désamorcer cette perception avant la convention démocrate pour essayer de donner, de créer une dynamique favorable à sa campagne. Et si on n'arrive pas, il nous reste un peu moins d'un mois avant la convention démocrate, si l'équipe de campagne de Joe Biden n'arrive pas à désamorcer, c'est-à-dire au fond, qu'on parle du fond, mais pas de la forme, pas des problèmes de mémoire, pas des problèmes d'âge, parce qu'au fond, la prestation qu'il fait hier est extrêmement correcte.
Elle est bonne,
Il maîtrise complètement les dossiers. Alors, à un moment, il confond Kamala Harris, la vice-présidente, avec Donald Trump.
Mais excusez, c'est la petite tache sur le costume, elle est petite, mais on voit que ça, quoi. Voilà,
je trouve que c'est réducteur. Mais bon, je maintiens. Okay. Il n'ira pas jusqu'au bout.
On parlera du timing après. Samuel, communicant, comment est-ce que vous regardez ça?
Il y a les deux lapsus d'hier, mais moi, ce qui m'a le plus interpellé sur la journée précédente, c'est cette dépêche AFP qui annonce que Joe Biden se couche à 20h tous les soirs sur ordre de ses médecins. Dépêche officielle qui a été démentie il y a à peu près 2 heures par Joe Biden lui-même. Mais le problème, c'est que cette dépêche, elle existe, que cette déclaration, elle sort pas de nulle part. Donc effectivement, comme dit Xavier, je pense que les équipes de communication, elles ont beaucoup de mal à cadrer les choses, que tout ce qui se voit et tout ce qu'on retient finalement, c'est les couacs, les incertitudes, les imprécisions. Et puis là, récemment, on a les premiers sondages qui commencent à sortir, mais non pas avec Biden en tête de liste, mais avec Kamala Harris, qui lui sont plutôt favorables à quelques cheveux près. Et ça, c'est le début des ennuis pour lui. Et c'est ce qui me fait dire que ça va être très, très compliqué de maintenir cette stature, de maintenir sa candidature et pouvoir résister aux assauts de son propre camp.
La presse anglo-saxonne, le New York Times, dit qu'effectivement, les équipes de campagne de Joe Biden et celles de Kamala Harris commencent vraiment à regarder l'alternative, à travailler ensemble.
Ils ont intérêt parce qu'en plus, le problème qui est posé, c'est qu'à partir d'un certain âge, un an compte double ou triple. Et si on se projette un peu à quelques mois, c'est pas rassurant.
Mais quelques semaines,
à 3-4 ans, ça l'est encore moins. Alors, il y aura toujours un vice-président ou une vice-présidente pour faire le job, le cas échéant. Enfin, c'est pas souhaitable. Là où, par contre, c'est révélateur quand même de beaucoup de systèmes de gouvernance qui n'est pas que démocratique, que américain, c'est l'incapacité que les chefs peuvent avoir à un moment donné à préparer leur succession, à se dire OK, à un moment donné, il faut se préparer à lâcher. Il avait une vice-présidente. Alors, on ne va pas parler de Kamala Harris sur le fond. Il y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui la détestent, des gens qui la trouvent capable, pas capable. À la limite, ce n'est pas le sujet. Il l'a choisie comme vice-présidente, c'est qu'a priori, il pensait qu'elle avait des aptitudes pour, le cas échéant, prendre la suite. Et tout le monde pensait à l'époque que c'était plutôt un casting intéressant sur le plan du binôme pour dire naturellement, comme il a 16 ou 17 ans, voilà, elle va être prête et elle va prendre la suite. Et puis, étonnamment.
Rappelez-vous, même en 2020, certains disaient en fait, il n'ira pas au bout de ses 4 ans. Il est venu là juste pour battre Trump et puis il s'en ira au
Exactement. Et on pouvait vraiment penser en plus que c'était le binôme qui était constitué pour ça. Et qu'il allait la mettre en question. Et dès le départ du mandat de Joe Biden, elle s'est effacée. Est-ce que c'est parce qu'il a voulu l'effacer? Est-ce qu'elle l'a
probablement pas voulu?
Est-ce qu'il y a quelque chose qui explique qu'il... En tout cas, c'était un scénario qui était curieux par rapport à la séquence.
Il a très vite mentionné qu'il voulait se représenter. Je crois deux ans seulement après son élection.
C'est quand même curieux qu'on ne comprenne pas.
Sur le timing, parce que vous dites, Xavier dit, reste un mois avant la convention démocrate. Enfin, je veux dire, on a déjà expliqué ça. Un mois, c'est court. 4 mois avant l'élection, c'est court pour nommer un candidat alternatif, pour le faire connaître, sauf si c'est Kamala Harris. Mais quand bien même, ça serait Kamala Harris. Quelques semaines tout au plus pour la faire émerger. Et puis on sait ce que c'est l'élection présidentielle américaine. C'est une histoire qu'on raconte, c'est quelque chose, véritablement. C'est court quand même.
Oui, non, mais d'ailleurs, c'est l'argumentaire de Joe Biden. Je crois que c'est ce qu'il a dit hier. Il a dit 4 mois, c'est extrêmement... Il y a des gens tout à fait capables. Mais partir de zéro, c'est très compliqué en 4 mois. On peut contourner le problème. Si la personne, par exemple, s'appelle Michelle Obama, elle ne part pas de zéro.
Elle n'ira pas. Enfin, elle répète qu'elle n'ira pas.
D'accord,
mais
c'est un exemple. C'est-à-dire quelqu'un qui a une popularité, popularité suffisante dans le camp démocrate, ou en tout cas perçu comme tel par l'opinion publique américaine, ne partirait pas de zéro. Et puis de toute façon, ce qu'il faut voir, c'est que Joe Biden a une autre problématique, ce qui est lié un peu au conflit dans la bande de Gaza, c'est qu'il a perdu une partie de l'électorat je veux dire, universitaires, des jeunes qui ont... Donc, jusqu'au 7 octobre dernier, il était le barycentre de beaucoup de choses. Peut-être qu'aujourd'hui, il est moins le barycentre du point de vue politique. Donc, le camp démocrate, déjà, s'interroge là-dessus, hein, entre l'aile gauche, l'aile droite, les centristes. Enfin, bon, je ne veux pas entrer dans ces nuances sémantiques. Et puis, son aptitude physique. Mais au fond, quel est le problème du binôme entre Joe Biden et Kamala Harris? C'est que Joe Biden, c'est un vieux crocodile de Washington. Et souvenons-nous de ce que disait Barack Obama, la meilleure décision qu'il ait prise au cours de ses deux mandats, c'est d'avoir choisi ce ticket.
Biden, ouais.
Il a choisi il a désamorcé énormément de choses vis-à-vis du Capitole, vis-à-vis du Sénat, vis-à-vis du Congrès américain. Et donc, il a encore, et ça se voyait d'une certaine façon hier, il a encore beaucoup d'aptitudes.
Bien sûr, bien sûr.
Il a un sens politique inné. Donc, c'est très difficile, pour Kamala Harris, ça a dû être très difficile de sortir, au fond, de son autorité, même s'il apparaît comme un vieil homme. Mais ça a été très difficile pour Kamala Harris de sortir de cette espèce d'autorité politique qu'il a aux États-Unis, dans le personnel politique, et qu'il a même dans l'opinion publique américaine. Parce que si on regarde les sondages encore aujourd'hui, il est encore... D'une certaine
c'est
façon.
C'est a priori le mieux à même de battre
exactement.
Trump, quoi qu'on en dise.
Donc, c'est pour ça. Hein, il a un capital encore qui est pas négligeable.
Samuel Botton.
Vous parliez de storytelling et de poser l'image.
C'est ça, on est d'accord,
candidat.
C'est ça une élection présidentielle américaine. On raconte une histoire aussi, quand même.
Xavier, d'ailleurs, il y a deux semaines, c'est-à-dire Joe Biden, je suis pas sûr qu'on soit sur un storytelling immense. C'était plus un rejet de Trump et le besoin d'alternance.
Non, vous aviez quand même une histoire. Vous aviez une vie.
Du vieux grognard, une vie compliquée, certes.
Une vie compliquée, perclue de drames. Il y avait des choses quand même.
De la campagne, je pense que le storytelling sur Biden est mineur. Par contre, là où ça peut être intéressant pour Kamala Harris, et où il y aurait un travail peut-être moins conséquent que ce qu'on pense à faire, je vais tirer des grosses ficelles, mais première femme noire présidente des États-Unis, en opposition à toute l'outrance dont Donald Trump a pu faire preuve sur son précédent mandat, ou quand il est en campagne et dans l'entre-deux qu'il y a eu. Donc je pense que ça peut offrir un contraste relativement intéressant. Après, il y a une chose dont malheureusement on ne peut pas se cacher, c'est que Kamala Harris, très tôt, elle a fait aussi l'objet d'un rejet de la population, ce qui fait qu'elle se soit effacée. Et encore, jusqu'à ces quelques chiffres d'il y a quelques heures, c'était pas forcément une évidence pour tout le monde. Après, comme on dit, quand on regarde dans le paysage politique, on est tous raccord sur le fait que la personnalité la plus qui nous vient le plus facilement à l'esprit, c'est Michelle Obama.
Oui.
Elle a écarté cette hypothèse.
Oui.
Quand vous regardez ce qui reste, eh ben il reste AOC et il reste effectivement Kamala Harris. Donc on parle là-dessus. On a deux femmes qui, pour moi, sont en lice. Et le storytelling, vous l'avez. Et après, à elle de faire montre de.
Bah oui, mais est-ce qu'on est d'accord pour dire que Kamala Harris.
D'aller faire cette campagne, de l'assumer, chose que Biden, lui, ne pourra pas faire, ou du moins pas comme il le souhaite.
Si elle se retrouve, en tout cas, devoir prendre vraiment le leadership, elle aurait une décision extrêmement importante à prendre, c'est le choix de son vice-président.
Oui.
Là, pour le coup, ce serait un message extrêmement important pour le coup, solidifier sa candidature. Et là, il faut faire un bon choix. Et pourquoi pas aller chercher Michelle Obama? Enfin, je dis vraiment quelque chose qui peut être
sa feuille
de femme. Non, mais il faut envoyer un message.
Ticket de femme, vous rendez compte?
Il faut faire un ticket, en tout cas. Le ticket sera très important. Et après, sa chance et sa malchance, c'est Trump. Sa chance, parce que ça peut être malgré tout un adversaire qu'elle peut battre, parce qu'il a quand même beaucoup de choses qui tournent autour de lui, il a toutes ses casseroles, et puis le personnage n'est pas non plus tout jeune, et tous les coups, il y a un contraste qui joue en sa faveur, et c'est peut-être là-dessus qu'effectivement,
Est-ce qu'elle imprime dans les swing states, les fameux swing states, je pense notamment en état du
Nord. Elle n'a pas imprimé pendant 4 ans.
La ceinture de la rouille, les fameux états du Nord, voilà, les fameux swing states.
Elle part de très bas, mais après, il va quand même falloir avoir envie de voter pour aussi un vieux monsieur. Trump n'est pas tout jeune.
Et même dans la communauté noire, c'est ça le paradoxe, c'est qu'elle imprime pas.
Oui, elle imprime pas dans la communauté.
Trump imprimerait quasiment plus dans la communauté afro, enfin noire.
Joe Biden donc était au sommet de l'OTAN. Alors, conférence de presse de Joe Biden après le sommet de l'OTAN. Je voulais qu'on dise un mot de ce sommet de l'OTAN parce qu'il y avait un beau sujet, il y avait un bel anniversaire, 75 ans, il y avait un beau sujet, l'aide à l'Ukraine. Mais on a plus parlé du reste, la santé de Joe Biden, Emmanuel Macron qui se démène pour rassurer ses partenaires européens, l'éventuel retour de Trump. Alors, il y a eu des annonces pour l'Ukraine. On nous a dit quoi? Il y aurait 40 milliards d'aides militaires cette année. Il y aurait des F-16 opérationnels dès cet été. On va fournir des nouveaux systèmes de défense anti-aérienne. Mais du côté de Kiev, on continue de dire tout ça nous aide juste à survivre et pas à gagner la guerre. Et on a le sentiment que l'OTAN continue à ne pas avoir de stratégie assez lisible vis-à-vis de la Russie, avec l'idée que si on force un petit peu trop, tout ça s'assimilera un peu trop à un affrontement direct entre l'OTAN d'un côté et la Russie. Est-ce que l'OTAN a une stratégie contre la Russie, finalement, en 2024?
Je pense que l'OTAN marche sur des œufs pour le moment, parce que... aller au conflit face à la Russie de manière aussi frontale, ça serait un jeu dangereux et je pense que c'est pas le moment au vu du contexte géopolitique. Alors après, sur ce sommet de l'OTAN, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a eu plusieurs sujets qui ont un peu vampirisé l'actualité. Effectivement, l'image que Biden allait renvoyer, Emmanuel Macron qui apparaît plus ou moins sans gouvernement et sans majorité à l'Assemblée, donc la question de l'après. Olaf Scholz, qui est aussi en difficulté à son niveau. Et puis, ben voilà, forcément, ça crée des sommets difficiles. Mais j'ai l'impression que chaque jour qui passe nous ramène vers un alignement de vieux blocs. Donc, d'un côté, on pourrait avoir la Russie, la Chine, la Corée du Nord, quelques pays du Golfe. Et puis, de l'autre, on a l'Europe, qui essaye de faire corps autant que possible. Les États-Unis, qui est proche, mais sans l'être trop, et qui joue un peu sa partition tout seul, puisqu'il y a l'image d'ailleurs de l'histoire du pays. Donc c'est assez compliqué. Et puis ben, l'OTAN, j'ai l'impression qu'elle est en train de renouer avec ses vieux réflexes d'organisation en état de mort cérébrale, ce qui est dommage, parce qu'il y a eu des très belles choses qui ont été faites ces derniers mois, ces dernières années. Mais là, j'ai l'impression qu'on arrive sur un accro.
Est-ce que l'OTAN est devenu un vieux machin, Alexandre, finalement, pour vous ?
Je ne crois pas. Je pense que l'OTAN, n'oublions pas, c'est d'abord un géant et des nains.
Donc, ils sont 32, hein.
Oui, d'accord, mais oui. Le poids du géant compte bien plus sur un plan militaire, sur un plan renseignement, sur un plan des moyens, que les 32 réunis.
L'Amérique, c'est 16% du budget, je crois, de l'OTAN, elle toute seule. Hein,
voilà, donc je pense qu'il ne faut pas perdre cette vue. Les Américains sont quand même effectivement au centre du jeu. Ils ont une campagne électorale. La guerre en Ukraine, ça lasse un peu quand même. La perspective est longue. Il y a des positions qui ne sont pas du tout alignées entre, bien sûr, les deux stratégies républicaines et démocrates. Ça, c'est, tout le monde le sait. Et puis, les Américains, ils se disent, bon, c'est bien d'avoir tous nos capteurs et tous nos moyens mobilisés sur la partie Russie qui s'éternise, avec en plus un renforcement quand même du bloc, hein, entre la Chine d'un côté, les exercices qui ne sont pas non, ce qui vient de se passer, ce qui se passe là, les exercices entre les Chinois en Biélorussie, aux frontières à 5 km de la Pologne, tout ça raconte quelque chose. Et quand même, la priorité stratégique des Américains depuis quand même une quinzaine d'années, c'est l'Indo-Pacifique. Et regardez quand même, lorsque le sommet de l'OTAN s'est tenu, il y a un certain nombre de pays invités qui renvoient quelques signaux. Le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Tout ça, c'est dans une partie 5-5. Donc tout ça raconte quelque chose. Et puis, il y a un autre problème, c'est ce qui est en train de se passer en Israël, qui va aussi pas mal capter les si je puis dire, l'attention, puisque pour l'instant, ça ne se passe pas très bien avec Gaza, ça continue. Mais visiblement, avec le Liban, on rentre dans quelque chose qui risque d'être inédit. Donc voilà, je pense que globalement, le temps n'est pas en état de mort cérébrale, mais les priorités des Américains sont en train de se réorienter.
Xavier, sur la situation de l'OTAN aujourd'hui, en 2024.
Non, je pense que entre guillemets, un mort cérébral ou un mort vivant qui se porte plutôt bien et qui montre sa robustesse. Et d'ailleurs, au fond, il dissuade en partie Vladimir Poutine. L'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, mais on sent que Vladimir Poutine avance sur des œufs. Et il y a eu quand même quelques avancées sur ce simple sommet. Premièrement, on va avoir l'Allemagne va abriter des missiles hypersoniques, je crois l'année prochaine. Il y a une initiative européenne qui a été signée à Washington entre les Italiens, les Polonais, les Allemands et les Français pour des missiles sol-sol à moyenne portée. Donc, je pense que, au fond, l'OTAN s'inscrit. Il y a une double ambiguïté, c'est-à-dire l'OTAN était en situation de déshérence d'une certaine façon, parce qu'on pensait qu'on était au fond rentré dans un monde un peu pas pacifiste, en tout cas en Europe, et il y avait un pivotement qui commençait embryonnaire. Avec d'ailleurs, ça avait commencé avec la guerre en Afghanistan, oui. Mais qui se préparait pour aller en Indo-Pacifique, pour la fameuse confrontation de rivalité entre l'oncle Sam et l'Empire du Milieu. Et des choses ont été réactivées brusquement avec 2022. Et on s'aperçoit quand même que, pour l'instant, la Russie reste... Au fond, l'analyse de l'OTAN, c'est-à-dire la Russie, pour l'instant, va rester sous le potentiel. C'est-à-dire va être dans des conflits qui ne vont pas déboucher sur une véritable confrontation avec les forces de l'OTAN. Alors certes, il y a une confrontation avec les forces ukrainiennes, mais on ne va pas avoir une confrontation parce qu'au fond, la Russie, je pense, l'état-major russe a énormément peur, je ne sais pas si le terme est approprié, mais en tout cas, il y a une forte dissuasion de l'OTAN. Tous les spécialistes savent que l'OTAN est en soutien, mais l'OTAN n'a pas déployé toute sa puissance. Et l'état-major russe le sait très bien. Hein, si on s'amusait, ce serait évidemment un scénario du pire. Je pense que les choses seraient donc... Oui. Le rôle des membres de l'OTAN, pour revenir à ton sujet, c'est de monter en puissance et de monter en puissance dissuasive. au fond, ce qui va compter pour la branche.
En puissance, pardon, ça fait 3 ans qu'ils montent en puissance sur le conflit.
Mais c'est pas suffisant. Parce que l'idée, au fond, moi, je pense que l'idée progressivement chez les Européens va être un moment de négocier quelque chose. Je sais pas quelle forme ça prendra avec la Russie.
Avec Poutine, ouais.
En se disant que la chose prioritaire, c'est pas nécessairement de concentrer toutes ses forces sur le conflit russo-ukrainien, mais c'est de concentrer toutes ses forces, toute son énergie budgétaire et son réarmement pour se préparer à une posture dissuasive pour une éventuelle conflictualité dans une décennie, dans une quinzaine d'années. C'est ça l'enjeu. Parce qu'on sait que, et c'est pour ça qu'il faut, avec le conflit russo-ukrainien, il faut y aller, il faut laisser la main à Zelensky, mais pas jusqu'au boutiste. Parce que si on consacre trop d'énergie dans cette confrontation, on va s'épuiser et on ne sera pas dans une posture suffisante pour la prochaine rivalité. Oui. Donc il y a cette espèce de conflit d'horizon et c'est pour ça que ces sommets de l'OTAN donnent une espèce de perception un peu bizarre. Et
un peu mièvre, un petit peu un goût d'inachevé.
Parce qu'il y a le double enjeu de la solution diplomatique à venir, qu'il va falloir négocier avec l'Ukraine et préparer la posture dans 10-15 ans pour rester en dissuasion face à la Russie.
Ça s'appelle préserver l'avenir.
Exactement.
C'est un petit peu ça. Voilà pour ce sommet de l'OTAN. 18h32 sur BFM Business. Je vous redonne les grands titres de l'actualité en France. Un petit peu de changement du côté des taux des produits d'épargne au 1er août. Le taux du livret A, du livret d'épargne populaire, par contre, on va passer de 5 à 4%. C'est Bercy qui l'a annoncé tout à l'heure. Par contre, celui du livret A ne bougera pas. Il restera à 3%. Unilever, côté entreprise, qui précise qu'il va supprimer 3200 postes dans toute l'Europe d'ici la fin de l'année prochaine. Il avait annoncé en mars qu'il entendait en supprimer 7500 au plan mondial, mais il n'avait pas vraiment indiqué la répartition. Et puis Airbus qui aurait lancé un plan visant sa division d'aviation commerciale. D'une part pour réduire ses coûts, d'autre part pour geler les embauches. D'après l'agence Reuters, le groupe, on le sait, est confronté à de gros problèmes de production. Il ne prévoirait pas, en revanche, de licenciements formels. 18h33, on revient avec nos experts dans un instant. Bien sûr, on est ensemble jusqu'à 19h. A tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 18h35, on est de retour avec nos experts. Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital, est là. Alexandre Malafaille, président et fondateur de Sinopia, est là également. Et puis Samuel Botton, expert en communication. Alors on dit certes, on prend le ton, on plaisante, mais il y a mine de rien un budget 2025, on revient en France, vous avez compris. Un budget 2025 à préparer, mais pour l'instant, on est le 12 juillet, vous n'avez pas de gouvernement, vous n'avez pas de majorité. Alors apparemment, le gouvernement Attal avait déjà commencé à plancher sur ce budget, il y a eu des lettres de cadrage, il y a eu des réunions techniques, mais là, on est en général à une période où le gouvernement pond un rapport qui indique le plafond des crédits. Apparemment, c'est la pierre angulaire du début de la préparation du projet de la finance. Et ça, c'est suspendu pour l'instant. Dans quelle mesure va-t-on être capable de pondre un budget pour 2025 si, comme disait hier Gérard Larcher, on enjambe tout l'été, finalement? Qu'est-ce qui peut nous arriver là, Alexandre, finalement? Oui.
La prévision économique, ouais, de la prévision budgétaire, de la stabilité.
C'est un sujet quand même, hein.
C'est considérable. Déjà, on voit qu'a priori, il n'y a plus assez d'économies année en cours, qu'il faut rajouter 5 milliards de plus aux efforts qui étaient demandés.
T'as vu Bruno Le Maire hier.
Voilà, donc oui, mais c'est pas rien, 5 milliards. Ouais. À mi-budget, récupérer encore 5 milliards sur l'exécution, c'est pas sans conséquence. Il y a un son du ministère qui voit ça de manière terrorisée. Enfin, je pense que notamment à nos voisins d'à côté, nos amis militaires ne sont pas très contents avec ce type de scénario. Parce qu'un modèle, ça a des effets d'éviction immédiats extrêmement compliqués à gérer. Après, c'est une équation infernale, en fait, en ce moment, qui est en train de se construire. Parce que les signaux ne sont pas globalement très positifs, à part la bourse qui résiste, semble-t-il.
Pour l'instant.
Ça sera ce que ce sera. Mm-hmm. Là, globalement, on voit que tout ce qui est du domaine des investissements est quand même plutôt gelé. Tout ce qui est du domaine des embauches est plutôt gelé. Qu'un certain nombre de décisions sont retardées. Donc tout ça ne va pas aider l'économie française dans une dynamique de croissance ou d'un peu de croissance, parce que c'est elle quand même qui tire un peu les recettes vers le haut. Donc on est dans un espèce de moment d'effet ciseau assez dramatique. Donc je pense que c'est compliqué. Techniquement, on saura faire un budget. C'est-à-dire les institutions permettent, au bout du compte, s'il n'y a pas de solution fin septembre, et si personne n'est capable de s'entendre, il y aura de toute façon une mécanique budgétaire qui assurera au moins l'essentiel pour l'année prochaine.
Ah, mais qui reprendra les arbitrages, grosso modo, de l'an dernier.
Non, mais c'est ça, voilà, ça toujours. Au pire, on arrive sur la règle du 12e,
c'est-à-dire
qu'il y aura toujours un budget. Mais ça ne règle aucun
problème. Le problème, Alexandre, c'est que la situation financière étant ce qu'elle est, on ne peut pas se contenter de reprendre les arbitrages.
Non seulement on ne peut pas ça. Au-delà de la situation budgétaire, le problème, c'est que vous avez un nombre de de professions qui attendent des réponses très concrètes. Alors, qui ne sont pas que des réponses budgétaires, mais prenez la question des agriculteurs dont il faut, je pense, bien s'occuper, parce que eux, si à un moment donné, ils se remettent à râler et à bloquer le pays, ça va être lourd de conséquences. Et eux, ils ne passeront pas l'hiver comme ça. Donc, eux, ils n'ont pas besoin que simplement on vote un budget. Eux, ils ont besoin qu'on règle des problèmes qui sont concrets, qui sont techniques, sur lesquels il faut passer par ou la loi ou des décrets ou des ordonnances. En tout cas, il faut régler les problèmes. Et ça, ça suppose d'avoir une force politique qui est à un moment donné capable de prendre des décisions. Donc oui, on est dans une situation qui est quand même préoccupante.
Est-ce qu'on réalise la situation face à laquelle on risque de se retrouver à la rentrée quand on entrera dans le dur de ce budget qui aura sans doute peut-être pas de majorité, pas de gouvernement à l'époque, et qu'on rappelle que début septembre, si je ne m'abuse, on doit envoyer à Bruxelles. Ah bah si, enfin le calendrier est ainsi fait, on doit envoyer à Bruxelles des projections revisitées, remises au goût du jour de la réduction de nos déficits. Oui, on peut dire qu'on s'en fout, évidemment,
mais
ces échéances vont arriver. Ça va arriver très très vite, c'est ça que je veux dire.
Hein, oui, personne n'y croit. Au fond, la déclaration de Bruno Le Maire hier, elle était singulière, parce qu'elle montrait...
Sortie de la glace.
Elle montrait un ministre... de plein exercice, puisqu'il n'est pas démissionnaire, continuant à exercer son administration, faisant le travail. Mais au fond, tout ça, c'est un peu comme ces personnages de Tex Avery, vous savez, qui sont au-dessus du précipice et qui avancent, puis à un moment, ils regardent en bas et d'un seul coup, ils trouvent. Ouais. On sait qu'il y a eu un mort collatéral le 9 juin, au moment de l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, c'était la consolidation budgétaire.
Ouais.
On est aujourd'hui le 12 juillet, on sait très bien que la consolidation budgétaire, il n'y en aura pas, quel que soit le schéma, le tournée-manège auquel nous allons assister pendant l'été ou après l'été, il n'y aura aucune majorité, ni relative, ni absolue, pour entamer quelque consolidation budgétaire de la précédente majorité relative. Donc tout ça, ce qui va simplement, il y a peut-être des acteurs qui vont siffler la fin de la partie, mais du point de vue institutionnel européen, c'est l'Eurogroupe, c'est la Commission européenne a commencé à le faire en nous mettant sous la procédure de déficit excessif.
Mais, même les Allemands, les frugaux.
Oui, mais
il y a 7 pays hein, qui sont placés comme ça.
Oui. Mais tu auras noté que ça n'a même pas constitué un sujet de discussion au cours des débats. Enfin, ça a été très que par exemple le plan, si on appelle ça un plan économique de la NFP, ait pu ressortir de la naphtaline un programme commun, j'allais dire au carré. Avec une situation qui n'est pas celle de la France de mai 1981, témoigne du fait qu'on n'intègre pas.
On est moins autarcique à l'époque. Oui,
on n'intègre pas cette dimension-là. Donc, ouais. Non, c'est pour moi, c'est un non-sujet. À aujourd'hui, tu as raison, ça va devenir un sujet parce qu'à un moment, peut-être que les investisseurs, nos créanciers vont s'exprimer, mais à aujourd'hui c'est un non-sujet parce que tant que j'ai pas de gouvernement, tant que j'ai pas de ministre de l'économie et des finances et tant que j'ai pas une relative stabilité, quand bien même c'est une majorité relative, moi je me pose même pas la question du budget. Pour moi, c'est on est dans la panade. Hein.
Et ça va arriver très vite la rentrée, pardon de le dire. Hein. Ça s'appelle les vacances, mais Samuel.
Alors très simplement, tout le travail qui a été fait jusque-là par les équipes de Bruno Le Maire, ça va être
poubelle.
Effacé d'un claquement de doigts puisque nouveau gouvernement il doit y avoir. Moi, j'avais ce raisonnement de me dire aujourd'hui qui peut éviter une motion de censure du gouvernement. Raquel Garrido, elle m'a amené un élément de réponse.
Ouf.
Elle prend le problème à l'envers en disant, aujourd'hui, dans quelle configuration pourrait-on se mettre pour faire en sorte qu'une motion de censure ne soit pas majoritaire ? C'est un peu ce qui est arrivé au gouvernement d'Emmanuel Macron depuis 2022. Donc ça, c'est un premier point qui est intéressant. Après, vous parliez de siffler la fin de la récré avec les institutions. Je pense que c'est les politiques eux-mêmes qui vont devoir s'y mettre. C'est-à-dire, à un moment, il va falloir très vite, le 17, tomber d'accord sur la démission du gouvernement actuel, faire des propositions pour le camp NFP sur qui sera en mesure d'aller constituer un gouvernement. Mais le problème, c'est que vous ne pourrez pas gouverner seul. Donc, je sais à peu près reconnaître des gens qui ne veulent pas gouverner quand je les ai en face de moi. Je pense que c'est totalement le cas de la France insoumise qui comprend qu'il n'y a que des mauvais coups à prendre en allant à Matignon et en prenant le gouvernement. Donc, très compliqué, des longues discussions, mais j'ai envie de jouer un peu les optimistes et de me dire on a jusqu'au 1er janvier 2025 pour s'en sortir.
Oui, oui, oui.
C'est après qu'on risque le shutdown à la française.
Nos confrères de l'AFP rappelaient quand...
Sans faire de politique politique, LFI ne veut pas du poids parce que Mélenchon ne veut pas du poids maintenant. Hein. Mélenchon,
ah non, on est d'accord,
Mélenchon,
c'est une stratégie.
Il installe le match pour la prochaine
élection. Et pour prendre l'espace qui est laissé par Emmanuel Macron sur le duel face au Rassemblement National. Mais la réalité, c'est qu'à un moment, la gauche va devoir prendre acte. Si elle veut rester crédible et montrer qu'elle est capable de gouverner et de prendre les responsabilités, il va falloir faire une croix sur la majeure partie des propositions du programme.
Donc il y aura beaucoup de cocus qui vont enrichir le camp de Mélenchon.
Oui, mais non, parce qu'on est dans le cadre d'un barrage d'un front républicain. Donc aujourd'hui, vous avez 66% des Français qui ont dit non au Rassemblement national.
Oui, mais ils n'ont pas dit oui au programme du NFP.
Ils n'ont pas dit oui au programme du NFP. Ah. C'est pour ça qu'il faut le coter et qu'on arrive dans une logique où il faut discuter avec ensemble.
La France, la France est à droite. Alors, vous avez 65% des Français qui ont peut-être voté ou 66% qui ont peut-être voté.
Pensez que tous les macronistes sont de droite?
Quasiment évident. Enfin,
ça me semble pas clair, parce que si on reprend l'histoire du macronisme de base, c'est une émanation du Parti Socialiste.
Mettons trois quarts, on arrive entre 63 et 65% de France à droite. Donc vous n'aurez pas un Premier ministre, en tout cas, qui sera à la tête d'une coalition uniquement de gauche.
Alors, ah non, on n'est pas sur une coalition de gauche.
Aujourd'hui, vous avez 17 ministères. Pourquoi pas? Vous pouvez avoir de social-démocratie. Mais ça va s'arrêter aux socialistes et peut-être pas à tout.
Dans une logique parfaite et dans un monde intelligent, on a 17 ministères, il y a une répartition qui a envisagé en fonction des forces en présence à l'Assemblée nationale, en mettant de côté le Rassemblement national. Je laisse aux experts la question de LFI et de voir si on peut les intégrer à un gouvernement. Mais vous aurez forcément des ministres LR, des ministres issus de la majorité, enfin, du groupe d'Emmanuel Macron, du centre, et vous allez devoir fédérer au maximum à gauche. C'est la seule porte de sortie possible aujourd'hui.
Xavier.
Ouais. Je voudrais juste faire une petite assise sur 66% à droite du Parlement. Moi, j'ai une lecture un tout petit peu différente. Alors, ça nous fait sortir de la droite et de la gauche, mais j'ai une petite lecture un peu différente. Quand 58% des ouvriers votent Rassemblement National, est-ce que c'est des gens qui votent à droite ou ils votent autre chose? Moi, je pense pas que les ouvriers, que 40% des employés, que plus de 30% des professions intermédiaires votent à droite. Je pense qu'ils votent par rapport à un sentiment de déclassement. Que dans ce sentiment de déclassement, il y ait le critère sécurité qui joue, je le conteste pas, mais qu'ils votent à droite, je trouve que c'est un résumé un peu trop rapide. D'ailleurs, c'est ce qui fait probablement la complexité de la situation actuelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une dimension droite-gauche, on est sur une dimension avec des tectoniques de la société qui font que c'est beaucoup plus... Enfin,
Vous avez raison. Mais le sondage d'Harris Interactive dit que l'électorat, cet électorat-là, il a voté massivement pour le changement. Pour le changement. Oui, mais le changement, parce qu'il y a une rupture, c'est une forme de dégagisme bis qui serait produit, d'une part. Et deuxièmement, là où c'est mélangé, c'est que c'est à la fois pouvoir d'achat, à la fois sécurité. Oui. Donc c'est des thématiques, effectivement, qui sont assez transverses. Mais c'est vrai qu'on le situe un peu à droite. En tout cas, c'est pas incompatible avec des gens de droite, de centre et de gauche, mais avec des vraies limites. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas aller trop loin dans un cas comme dans l'autre.
Tiens, puisque vous parliez du programme du nouveau Front Populaire, une des propositions phares du programme du Front Populaire, vous savez, c'est de rehausser le SMIC à 1 600 €. Et alors, ce matin, Marine Tondelier a reconnu que, ouais, ça pourrait pas se faire tout de suite, parce que oui, on peut le faire par décret, le SMIC à 1 600, mais le Front Populaire, vous savez, veut accompagner ça d'une loi, dispositif d'aide aux TPE-PME. Et pour ça, effectivement, il faut une loi. Donc, ça peut pas marcher tout de suite, écoutez.
On est des gens responsables. Je ne sais pas pour qui certains nous prennent, mais on arrive avec la ferme intention de gouverner. Et moi, la ligne écolo que je défends beaucoup et qui est partagée, c'est réparer, apaiser, protéger. Notre but n'est pas de mettre les gens en difficulté.
Il n'y aura pas de SMIC à 1 600 € avant un bon bout de temps, avant que vous n'arriviez à avoir une majorité. Donc quand Jean-Luc Mélenchon, disait on peut le faire par décret, vous dites non,
mais
on ne le fera pas par décret parce qu'on ne le fera pas sans un accompagnement.
Mais on va aller se battre amendement par amendement, et ça ne va pas juste être de la bagarre. Ça va être une entreprise pour convaincre les gens. Et peut-être que la vie politique française manquait de ça, parce que quand on repose que sur des 49-3 et tout ça, en fait, on n'essaye plus de convaincre.
Là, ça ressemble à une reculade, quand même. Non, mais petit à petit, je veux dire, reprocher au RN de s'asseoir sur plusieurs promesses de campagne au fur et à mesure que la campagne est lancée, là, vous vous rendez compte, effectivement, que les masques tombent un petit peu, quand même.
On va reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, sans refaire le débat, mais c'est dire, le programme du nouveau Front Populaire n'a pas été un programme pour gagner. Oui. Ils l'ont dit, ils le disaient, c'est un programme qui a été fait pour piquer le plus de sièges possible au Rassemblement National. Parce qu'on pensait tous que le tiercé dans l'ordre, c'était RN, ensuite la gauche, ensuite Macron. Puis le tiercé n'a pas été dans cet ordre-là, ça s'est inversé. Voilà. Et donc, tout d'un coup, ils se retrouvent aux affaires avec, potentiellement, avec tout d'un coup un programme de... Oh, merde! Pardon, c'est pas le programme qu'on avait imaginé. Donc avec des mesures qui sont, quand vous les cumulez toutes, qui sont assez déconnantes pour continuer dans les expressions un peu triviales. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet pour dire que là, ils sont évidemment très embêtés. Mais alors l'usine à gaz inventée pour dire on va augmenter de 1600, mais on va mettre une espèce de mécanique pour aider les petites et moyennes, etc. On va encore inventer un monstre à la française, c'est impossible. Et puis après, la discussion sur la méthode, elle est géniale. Alors on va quand même pas faire comme les autres. Certains disent que si, certains disent que non. 49.3, ordonnance, passage en force, décret, c'est absolument génial et confusant.
Samuel, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, le NFP est dans la même configuration que le Rassemblement National pendant la campagne
c'est
des législatives.
Bah ouais, c'est ça.
On découvre la différence entre conquête du pouvoir, exercice du pouvoir. Et on se rend compte que tout n'est pas faisable et qu'il y a des règles. Alors, il y a les doutes, effectivement, de Marine Tondelier et de Raphaël Glucksmann sur la méthode à avoir. On sent que sur cette méthode, il y a des distorsions immenses au sein du nouveau Front Populaire, où d'un côté, vous avez la position de LFI. De l'autre, et je trouve qu'ils sont plutôt raccord, effectivement, et c'est leur seul point d'ailleurs, le PS qui a tendance à suivre cette logique-là. Et après, vous avez les modérés qui semblent enclins à aller dans une forme de coalition, qui eux vous disent, bon, attention, c'est pas pour tout de suite. Sur le SMIC à 1600, je redirai ce que j'ai dit mercredi, un SMIC à 1600, c'est pas impossible. Sauf que c'est pas maintenant, tout de suite. Et c'est la plus grosse erreur du Nouveau Front Populaire, c'est d'avoir fait croire que toute cette série de mesures pouvait être appliquée sur les 2-3 prochaines années, voire même certains avec un effet immédiat. Non, c'est pas possible. On reprend l'exemple du SMIC à 1400 euros qui a été prôné en 2017. 2017, SMIC à 1264 euros. Aujourd'hui, SMIC à 1400. Vous avez un temps long qui vous permet effectivement d'arriver à vos objectifs. Le SMIC à 1600, pas une chimère, c'est possible. Mais c'est possible d'ici 5 à 6 ans. Il va falloir du temps, il va falloir monter en gamme progressivement, suivre les règles économiques, suivre aussi le contexte qui est le nôtre et les impératifs que nous avons, et on y arrivera. Mais aujourd'hui...
Si ça se trouve, on y arrivera mécaniquement à 1600. Hein. Vous savez, on n'aura même pas besoin de forcer le destin.
Mais c'est surtout ce point-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le NFP fait plusieurs erreurs. C'est d'une part de faire croire à sa base électorale et aux Français qu'ils ont gagné cette élection. Non, ils sont arrivés premiers. Gagner, c'est avoir... 260 et 289 sièges. C'est pas le cas.
Alors, le deuxième, c'est de dire on jeudi prochain quand les groupes seront constitués, qu'il en restera
à la virgule près. Okay. Non, vous ne pourrez pas, c'est pas possible.
Xavier, sur cette configuration, sur les.
Non, mais moi, 600 euros, le je me suis livré à une petite expérience. Je crois que mercredi, j'ai écouté sur YouTube un discours de Jean-Luc Mélenchon, donc qui était off puisqu'il n'était pas sur les médias, mais je l'ai écouté. Et je cite, hein, c'est du verbatim. Donc si je suis Premier ministre, si nous sommes élus dimanche, donc il parlait avant le résultat de dimanche soir, vous pourrez dire. Donc il s'adressait à un public de quelques dizaines, ou peut-être une centaine de
C'est un live Twitch, il me semble.
Voilà, exactement. Et vous pourrez dire à votre patron au 1er juillet. Donc il rétro-pédalait, au 1er juillet que vous aurez un SMIC à 1600 et si vous avez plus de 62 ans vous pourrez aller voir votre
partir
vous pouvez commencer à remplir. Donc on est quand même sur cette logique-là. Il faut voir que, moi je répète, hein, sur le programme économique de NFP, il y a quand même 300 économistes. T'entends bien, 300, non, j'ai pas terminé, 300 économistes, dont éventuellement quelques prix Nobel, semble-t-il, ou des gens qui prétendent avoir le prix Nobel d'économie, qui ont apporté leur caution. Et là, pour le coup, là où je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est que, à la différence du Rassemblement National, c'est qu'ils ont bossé. Ils ont mal bossé, mais ils ont bossé. Ils ont bossé quelques nuits, et ils montrent leur impréparation. Et c'est ça qui est inquiétant. C'est-à-dire que, moi, je ne sais pas ce qu'en pensent, au fond, les gens modestes, d'une certaine façon, ou une partie de l'électorat. C'est que peuvent-ils penser quand ils ont voté avec de telles annonces et de voir le résultat aujourd'hui ? De l'infaisabilité. C'est ça qui est inquiétant. Et alors là,
est-ce
pour
qu'ils
n'en
étaient pas déjà conscients au moment de voter que 160
peut-être, propositions étaient inapplicables. Il y a un vote protestataire, c'est possible. Ça nous dit quand même, je trouve, hein, globalement, si on sort de NFP, LFI, tout ça, si on va de la gauche à la droite, je trouve qu'il y a, me semble-t-il, une impréparation. Ce qui a été bizarre, même si c'était une campagne ramassée qui a duré
trois semaines.
Je trouve que ne pas avoir réussi à parler de la dette, de ne pas réussir à parler de la problématique financière, de ne pas avoir réussi à parler, au fond, du malheur français depuis 40 ans. Hein, du fait qu'on a quand même, ce que je disais,
mais c'est pas
la classe ouvrière, le peu d'ouvriers qui restent en France, votent Rassemblement National. Et ils ne votent pas Rassemblement National, les employés, même chose, parce que ce sont des fachos ou parce qu'ils ont envie de faire de la ratonnade. Ils votent Rassemblement National pour autre chose, parce qu'il y a un sentiment de déclassement, d'insécurité culturelle, économique, sociale, anthropologique. Donc, qu'on n'ait pas ces éléments, pour revenir à ton 1600, tout le monde sait que mettre le SMIC à 1600, c'est un drame, c'est une bombe nucléaire sur sur l'économie française, qui est une économie qui est structurellement déficitaire, budgétairement, qui a un niveau d'endettement élevé, qui a un déficit courant et qui a un déficit commercial. Donc si on veut
avec 80% des demandeurs d'emploi,
augmenter le déclassement de ceux qui votent contre les déclassements, il n'y a qu'à mettre ces mesures en œuvre. Allez, moi, je suis sidéré d'avoir vu des sociaux-démocrates rallier cette position. Ça, c'est quelque chose qui, me semble-t-il, est inquiétant. Je comprends la cambrure,
l'opportunisme,
le plat d'anti, le poste de député. Mais je trouve que c'est inquiétant.
Samuel, vas-y.
Deux points, et je vais ajouter un peu d'eau au moulin de Xavier. Le désaveu d'un de vos... de vos experts du soir au programme du NFP, M. Stardignac, il y a un long courrier, une longue tribune pour expliquer qu'il s'était astreint au silence et qu'il ne pouvait pas se prononcer pleinement sur ce qu'était ce programme. Puis après, c'est une piste, effectivement, un SMIC à 1600 euros tout de suite, c'est inenvisageable. Par contre, il y a une chose que je n'ai pas entendue chez aucun des candidats aux législatives, c'est comment est-ce qu'on arrive à se concentrer et agir sur le reste à vivre. Une fois que vous avez payé votre loyer, vous avez payé vos charges, tout ce qui vient, combien est-ce qu'il vous reste pour finir le mois et comment est-ce que vous pouvez
orchestrer? Mais ça, c'est la problématique du coût du logement, ça.
C'est ça.
Donc, et derrière,
pour revenir sur ce que disait Xavier, j'entends toutes les problématiques économiques de la France, sauf que ça n'imprègne pas chez les Français, et notamment ceux qui votent, qui ont dû voter par la force des choses. Tous ces sujets-là, c'est pas sexy, c'est central, mais ça leur passe au-dessus de la tête. Et de la même manière, sur la réforme des retraites, sur les trois programmes et les trois propositions qu'on a eues, aujourd'hui, le Français, ce qu'il regarde, c'est quand est-ce qu'il aura sa retraite à taux plein. Donc, quand Emmanuel Bompard nous dit vous pouvez partir à 60 ans, mais vous n'aurez pas une retraite à taux plein, le Français, il ne l'entend pas. Pour lui, dans sa tête, la compréhension, c'est
je vais me faire plein d'amis, mais pour dire qu'il faut se méfier des économistes, parce qu'ils connaissent sans doute effectivement très bien la macro, mais ils ne connaissent pas les entreprises ni comment ça se passe. Ils sont très loin de tout ça, malheureusement. Quand Thomas Piketty dit il suffit que pour les très riches, ils vendent 2-3% de leur capital social d'entreprise et ils payent leurs impôts, ça laisse une pensée songeuse. Et j'en ai un autre que je ne citerai pas, parce que je l'aime bien malgré tout, mais qui explique quand même que la crise du pouvoir d'achat, c'est parce qu'il y a trop de pouvoir d'achat. Donc effectivement, allez expliquer ça aux Français. Bonjour, et c'est un économiste connu, reconnu, qui sévit sur les plateaux télé. Et pourtant, on l'écoute.
C'est pas très électoralement parlant, très, très porteur, effectivement. Non. J'en conviens. Allez, 3 minutes encore, l'heure de l'extra time tous les soirs. Vos coups de gueule ou coup de cœur sur 30 secondes pour clore cette émission. Bien sûr, c'est la règle. Xavier, allez, parti, 30 secondes.
Moi, c'est un coup de gueule parce qu'on on fêtait le lancement, c'était mardi soir, de Ariane 6.
Ariane 6, bien sûr.
Ariane 6, et il y a une dizaine de jours, l'organisme européen EMSAT, qui s'occupe de la surveillance en termes de météorologique, qui avait prévu de lancer son prochain satellite, qui est d'origine allemande, son prochain satellite avec Ariane 6, a décommandé ce vol, qui devait avoir lieu début de l'année prochaine, pour le passer à SpaceX et à Falcon 9. Est-ce qu'on doit y voir un coup de pied de l'âne de notre partenaire allemand, parce que c'est un satellite allemand, et est-ce que c'est l'une des conséquences des effets collatéraux de la dissolution du 9 juin? Peut-être, en tout cas, l'Europe spatiale est sur un mauvais chemin, d'une certaine façon.
Vive l'Europe spatiale, qu'on croyait relancée, qu'on n'a pas entendu après le lancement réussi d'Ariane 6, effectivement. Alexandre, 30 secondes, c'est parti.
Il y a un coup de gueule contre l'augmentation des URSSAF pour les auto-entrepreneurs.
Ah oui, oui.
Parce que quand même, c'est pas banal. En l'espace de 2 ans, on va passer d'un taux de prélèvement de 21,1 à 26,1 en 2 ans et un peu plus. Donc ça veut dire que c'est une hausse de 24%, ce qui n'est pas rien. Pour le simuler, l'échelle d'un chiffre d'affaires, mettons, de 30 000 euros, eh bien, c'est 1 500 euros de pouvoir d'achat, pour le coup, net en moins, dans la poche de ceux qui font ça. Je trouve que dans le contexte actuel, on a besoin d'argent, c'est sûr, mais c'est malheureusement pas un bon signal, et c'est surtout pas de bon augure, parce que ça passe à bas bruit, mais ça passe quand même, et c'est pas banal.
Ça n'incite pas à entreprendre, effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire. Samuel Botton, 30 secondes pour conclure, mon cher.
Moi, je vais vous parler podcast. Les médias se portent bien, notamment ceux qui proposent des podcasts.
Mais oui.
Donc, 168 millions qui ont été écoutés ou téléchargés dans le monde, podcast français en l'occurrence. En tête, on retrouve le service public que j'affectionne particulièrement avec France Inter. Mais ce qui m'a interpellé, c'est le groupe Altice qui est là en force avec en deuxième position RMC à 30,7 millions d'écoutes. BFM Télé 10e à 2,1 millions. Mais surtout, pour moi, la belle surprise, c'était de voir BFM Business devant la grande sœur.
Mais oui.
Grâce à Good Morning Business, Tech & Co, 90 minutes, les experts, BFM Patrimoine et Bourse.
Voilà.
Donc c'est une perf exceptionnelle. Et comme on est en fin de saison, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de dire un grand bravo aux équipes.
C'est très gentil, effectivement.
Vous voulez revenir, vous,
Oui, je veux revenir, mais c'est vrai que nos podcasts se portent à merveille sur toutes les émissions. Et croyez bien que c'est c'est une immense satisfaction pour toutes nos équipes. Effectivement, continuez à télécharger nos podcasts, on le répétera jamais assez, ils sont à votre disposition bien sûr. Merci messieurs d'être venus ce soir, Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital, Alexandre Malafaï, président fondateur de Synopia, Samuel Botton, expert en communication. Merci à tous les trois.
Merci Guillaume.
À très vite pour nouvelles aventures, 18h57 dans un instant. Le journal sur BFM Business, on se retrouve bien sûr lundi pour de nouvelles aventures. Bonne soirée, bon week-end.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.